les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Cinquième cycle d'investigation pour Brigitte et Jean Massin qui, en 1970-71, achèvent leur hommage à Beethoven avec un Beethoven pris comme phénomène musical intégral et en particulier maintenant en ce qui concerne les répercussions de son œuvre. « Pour nous, musiciens », écrivait Franz Liszt à Lenz en 1852, « pour nous, cette œuvre est semblable à la colonne de nuée et de feu qui conduisit les Israélites à travers le désert. » Colonne de nuée pour nous conduire le jour, colonne de feu pour nous éclairer la nuit, afin que nous marchions jour et nuit.
La semaine dernière, nous avions demandé à Olivier Messiaen et à Yanis Xenakis ce qu'ils pensaient de Beethoven aujourd'hui en tant que compositeur. Cette semaine, ce sera le tour de Pierre Boulez, de Pierre-Henri et de Maurice Béjart, trois personnalités musicales bien différentes et surtout trois directions de travail absolument différentes. Quand j'avais demandé à Pierre Boulez s'il voulait répondre aux questions que je lui poserais sur Beethoven et par exemple la modernité de Beethoven, il m'avait répondu, il était encore en Amérique, qu'il n'avait rien à dire sur ce sujet, qu'il ne voulait pas parler de Beethoven. J'ai pourtant pu le rencontrer à Bruxelles lors d'un débat public sur la musique d'aujourd'hui et j'en ai profité pour lui poser quelques questions sur Beethoven et surtout à propos de l'interprétation qu'il venait de signer pour une maison de disques de la 5e des symphonies de Beethoven. Interprétation très personnel et très étrange aussi à plus d'un titre et notamment par la lenteur du rythme qu'il donne au départ de la 5e symphonie. N'aimez pas les anniversaires, la musique pour vous est en perpétuelle évolution, il n'y a pas donc de raison de privilégier une époque plutôt qu'une autre. Vous n'aimez pas non plus qu'on fête par trop le bicentenaire de Beethoven. Et pourtant, écoutez, vous l'avez célébré d'une certaine manière.
Je vous dirais une chose, je connais une histoire que j'ai citée récemment, je trouve que ça c'est beaucoup mieux de célébrer quand, l'anniversaire quand c'est l'année zéro. Mais alors je ne vois pas qui est-ce qui pourrait le célébrer. Ah, c'est justement, je connais une histoire qui est très jolie, c'est le monsieur Hugo, père.
Général.
qui est à Besançon, donc, je crois, ou à Dole.
À Besançon.
Et qui va trouver l'officier d'état civil parce qu'il a naissance d'un fils à déclarer. Ça se passe en 1802. Et alors, il demande, l'employé d'état civil lui dit, nom, Hugo. Prénom, Victor. Oh, sincère félicitations, monsieur.
Il y a bien peu de pères qui seraient heureux sur la terre en ces occasions-là. Mais ceci dit, vous avez quand même cette année signé un enregistrement de la 5e symphonie de Beethoven,
oui.
Qui paraît, je crois, dans le cadre quand même du bicentenaire.
Mais il n'a pas été fait pour ça.
Il n'a pas été fait pour
non.
Ça. Bon, ceci dit, votre enregistrement porte une marque très personnelle, plusieurs marques très personnelles.
Oui.
Est-ce que pour vous, il s'agissait, en agissant de la sorte, simplement, d'être le chef d'orchestre Pierre Boulez, ou encore plus, peut-être davantage, de rompre certaines habitudes d'écoute? et de proposer une écoute un peu neuve dans une œuvre que l'on connaît déjà.
Non, ça, je ne propose pas une écoute neuve. Je voudrais vous dire que mes vues de l'histoire, depuis que j'ai dirigé beaucoup d'œuvres du passé, mes vues de l'histoire ont complètement changé. J'aime faire un tour dans le musée de temps en temps, mais plus que ça, je ne vois pas d'intérêt, personnellement. Si vous me disiez demain, par exemple, je n'écouterais plus du tout de musique depuis à partir d'hier jusqu'au siècle passé, ça me serait complètement égal. Il y a un moment donné où je trouve que la culture, on peut très bien s'en débarrasser. Et je le fais beaucoup plus. C'est pour ça que j'ai beaucoup admiré à un moment donné les gardes rouges chinois, parce qu'au moins eux, ils ont eu le courage de briser les temples, de briser les statues. Il y a un moment donné où, quand une civilisation croule et devient apoplectique, si vous voulez, il y a trop de sang épais, et à un moment donné, on ne sait plus quoi faire de tout ce sang, il faut l'enlever, tout simplement. Personnellement, si vous voulez, je me dévoue pour jouer certaines œuvres du passé parce qu'elles servent à présenter les œuvres du présent. Vous ne pouvez pas syndicalement, je dirais, faire vivre des musiciens en présentant uniquement des œuvres du présent. Donc il y a un moment donné où il faut se servir de l'histoire comme ça. Mais vraiment, moi personnellement, si on me disait demain, vous cessez complètement, je ne m'en trouverais pas plus mal ni plus malheureux, je veux dire.
Et pourtant, sur cette œuvre précise, vous avez pris une option très personnelle. Je pense par exemple à ce que vous faites dans le trio, qui est totalement inhabituel, où vous avez essayé de reconstituer la première audition de la symphonie telle qu'elle aurait pu être jouée la première fois.
Non, je crois simplement qu'il y a eu une erreur matérielle qui s'est glissée dans les premières éditions et que j'ai corrigée.
Et sur le tempo que vous choisissez pour le premier mouvement?
Vous savez, les tempos, ça c'est une question, je crois, c'est une question physiologique. Qui peut me dire le tempo du 19e siècle? Et je peux vous dire que même si j'avais les documents sur le 19e siècle, le tempo que prend le 19e siècle ne m'intéresse pas du tout. Je trouve qu'une œuvre est intéressante si vous la transformez vous-même. Une œuvre, c'est vraiment de la matière première. C'est pour ça que aussi le mot tradition, pour moi, est une chose qui n'existe pas. Parce que ce qui m'intéresse dans la tradition, c'est ce que j'en fais, pour mon usage personnel. Mais vraiment, la tradition grand T, je ne vois pas du tout l'intérêt même que cela peut avoir. Si j'admets les œuvres, c'est parce que je veux qu'elles parlent avec moi, mais pas qu'elles parlent en face de moi. Oui. Vous bon. Et c'est tout, ça ne concerne pas un auteur, ça concerne tous les auteurs, ça concerne toute l'histoire. Et je veux dire que je n'admets pas, vraiment, je n'admets absolument pas chez moi le mot, si vous voulez, historicité, authenticité, tradition. C'est une notion qui est absurde, qui est fausse et qui est inutile.
Et dans le même sens, est-ce que vous aimeriez qu'on parle de la modernité de Beethoven?
Elle ne m'intéresse pas, je dois vous dire. Ça m'est complètement égal, parce que modernité, tout compositeur est moderne et tout compositeur n'est pas moderne. Il y a un moment donné, vous comprenez, où les temples grecs vous ne servent pas du tout à construire des gratte-ciel. Un gratte-ciel en verre et en acier, vous avez beau regarder une colonne dorique, ça ne vous sert à rien, strictement, parce que les données ont tellement changé. Ce sont des étoiles mortes qui scintillent encore, c'est tout. Et personnellement, je ne vois pas du tout d'intérêt à considérer la modernité d'un compositeur. Pour moi, il y a des choses qui sont terminées. Et ça, c'est terminé.
C'était donc, saisi presque au vol au cours d'un débat public à Bruxelles, quelques réponses de Pierre Boulez sur la modernité de Beethoven. Mais tracassé peut-être par ce problème beethovenien auquel il n'avait en fait pas envie de répondre, il avait dans l'avion qu'il emmenait d'Amérique écrit pour un journal allemand tout un article, très vivant du reste, sur Beethoven, article qui tempère un peu ce qu'ont de paradoxal les propos de Pierre Boulez.
Je crois que nous pourrions en lire ici la fin, la dernière partie. Tout ce que représente Beethoven, cette grande plage de notre histoire, cède la place à une autre qui ne fait que commencer, dont l'Europe ne possédera plus le privilège presque exclusif. N'est-ce pas le moment de célébrer non pas une naissance individuelle, mais une mort collective? N'est-ce pas un moyen de se réassurer quand on soupçonne que cette suprématie dont on a pris l'habitude va sombrer? Les deux annexions de Beethoven se lisent alors très clairement. Ou bien, une nostalgie de ces quelques deux siècles décisifs, un désir de rafraîchir les anciennes splendeurs, rien n'a changé, rien ne changera, tout se fige dans une lumière solaire fixée pour l'éternité. Ou bien, partons pour l'inconnu avec passion, mais emportons, pour nous rassurer, le buste de cet ancêtre. Gardons-le comme patron de l'aventure. Il sera témoin face aux nostalgiques que nous sommes des barbares volontaires. Qu'en pensez ? Il arrive un point de l'histoire où tout monument, toute œuvre ne nous enseigne plus rien directement. Le temple grec ne vous apprend pas à construire un gratte-ciel vert et acier. Mais on préserve le temple grec pour le plaisir et l'appréhension, le mystère d'une vie finie. Étoile morte qui scintille encore à nos yeux. Aussi, pourquoi vouloir à tout prix l'actualité d'une œuvre ? Elle irradie par elle-même, pour elle-même. Sa suprématie historique figée est un leurre. Sa radioactivité n'a rien à voir avec un profit futur. Entre ces voix qui dialoguent, le fleuve Beethoven reste sourd aux objurgations. Il irrigue. Et on ne sait encore vers quel océan, vers quelle mort il s'achemine, qui ne se sent allégé de savoir que la mort, cette mort, est encore imprévisible, même si elle est inéluctable.
Ce texte de Boulez, écrit le jour même ou la nuit qui précède les questions que j'avais pu lui poser, est finalement un magnifique hommage à Beethoven. Car dire d'une œuvre passée qu'elle continue à irradier aujourd'hui, quel hommage meilleur peut-on en faire ?
Oui, si on voulait s'amuser à chicaner ce très beau texte ou à chicaner les réponses que Boulez te donnait à Bruxelles, j'aurais envie de dire que je préfère la conception du passé radioactif qu'il exprime dans cet article à la conception du passé n'ayant plus qu'un rôle syndical et qu'il prenait dans ses réponses à toi. Le rôle syndical du passé me paraît moins important que son rôle radioactif. Et du coup, j'aurais envie aussi de le chicaner, car précisément, il refuse le mot historicité. Mais finalement, c'est encore au nom de l'histoire et de l'histoire présente qu'il refuse l'actualité à Beethoven, en reconnaissant que Beethoven est un fleuve qui irrigue encore, suivant ses propres termes. Et finalement, l'historicité n'est peut-être ici qu'une mauvaise querelle.
Oui, je pense aussi. Mais comme il est difficile de continuer à discuter de Pierre Boulez sans que Pierre Boulez soit là, tournons donc notre regard vers une autre personnalité de la musique et allons demander à Pierre-Henri quelle est sa position aujourd'hui.
La liaison, d'ailleurs, il me semble, nous la trouvons dans les paroles mêmes de Pierre Boulez. On ne se sert pas d'un temple grec pour construire un gratte-ciel en verre et en acier. Si un musicien construit des gratte-ciel différents des temples grecs, c'est bien Pierre-Henri, puisqu'il refuse totalement l'usage des instruments traditionnels, donc du matériau traditionnel de l'architecture musicale. Il est d'autant plus intéressant de voir si la réponse de Pierre-Henri va rejoindre celle de Pierre Boulez.
Pierre-Henri, nous sommes ici chez vous, au milieu d'instruments étranges, de manettes et de boutons. Vous êtes musicien, c'est avec ces instruments que vous composez votre musique, et pourtant nous venons vous interroger sur un musicien du passé. Mais quelle est votre attitude en face des musiciens du passé ?
Je pense que c'est une attitude d'enfant, c'est-à-dire que j'ai pris connaissance en étant enfant au conservatoire, étudiant, de toute une musique du passé, qu'elle est entrée en moi, mais je l'ai abandonnée depuis fort longtemps. J'écoute extrêmement peu de musique, qu'elle soit traditionnelle, classique ou même de la musique contemporaine, et donc j'ai une attitude de souvenir vis-à-vis de musiques qui m'ont beaucoup marqué. Mais je n'ai pas une activité actuelle très 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 portée sur les musiques du passé.
Vous dites pourtant que certaines musiques vous ont beaucoup marqué. Est-ce qu'on pourrait dire que pour vous, Beethoven a compté ?
Oui, il a beaucoup plus compté que Bach ou Mozart. Il est dans les 3 ou 4 musiciens qui ont été assez déterminants pour moi.
Est-ce que ça reste vrai sur le plan de votre composition ?
Je pense qu'on peut trouver dans mon travail des rapports assez, je pense, assez importants sur une thématique de Beethoven, une façon de composer, une façon d'écrire. Et ce serait intéressant de dire pourquoi maintenant. Enfin, on peut essayer en tout cas.
Si Beethoven a compté pour vous, est-ce qu'on peut dire que c'est sur le plan d'une certaine dimension des œuvres, par exemple?
Non, je pense que c'est au niveau de l'écriture, au niveau d'une certaine pensée, qu'on peut trouver des correspondances.
Je pense tout de suite à deux choses qui, il me semble, dans vos œuvres, peuvent peut-être dépendre d'une certaine manière de Beethoven. Je vois même trois. Je l'ai dit tout de suite, il y aurait peut-être des problèmes de rythme, l'intérêt pour la variation et peut-être une certaine nouvelle notion du temps.
En premier, c'est certainement le travail de la variation qui m'intéresse beaucoup chez Beethoven et que je reprends enfin assez souvent, en particulier dans des œuvres comme...
Variation pour une porte et un soupir.
Oui, enfin, variation pour une porte et un soupir, mais même des choses comme le flux d'immobilité dans l'arsène du voyage, et des œuvres comme La Noire à 60, etc. Alors, là, le souci de la variation est un souci très, très, très grave, très important chez moi. Au point de vue rythmique, je ne crois pas. Et peut-être un certain besoin des fois de répétition, de saturation, que l'on retrouve chez Beethoven. Enfin, une espèce de les choses sont martelées, les inventions rythmiques de compositeurs comme Stravinsky ou Messiaen ou même Debussy sont beaucoup plus proches, oui.
Et sur cette nouvelle notion du temps. Parce qu'il me semble que dans vos œuvres, il y a une recherche permanente pour soit analyser le temps d'une manière très précise, soit au contraire le bousculer.
Oui, on peut. Je ne sais pas, je le sens beaucoup moins par rapport à Beethoven, je crois. Non, il y a aussi chez moi une volonté de trouver des sons thématiques très courts, qui sont très frappants chez Beethoven. Il y a une espèce de thèmes qui ne sont pas très, très importants mélodiquement, qui sont des espèces de fragments de thèmes, et cette volonté thématique est très travaillée chez moi, je crois.
Ce qui est intéressant dans ce dialogue, c'est qu'au fond, ce sont des historiens de la musique qui interrogent un compositeur, d'où des demandes et des réponses qui ne correspondent qu'au-delà du dialogue même. Je veux dire que pour nous, ce qui est frappant, c'est la manière dont Beethoven était nécessaire pour permettre la suite de l'histoire musicale. Il est absolument clair que ce qui vous intéresse, vous, ce n'est pas de vous poser le problème de savoir ce qui a été nécessaire pour que vous arriviez, mais ce que vous pouvez encore en tirer dans votre travail aujourd'hui.
Oui, mais comme je vous l'ai déjà dit, je pense que tout ça, c'est en moi. Je ne me pose jamais de questions quand je travaille. Est-ce que là, je vais, comme certains compositeurs pourraient le faire encore maintenant, et je vais faire une variation en hommage à Beethoven, en repartant de certains procédés, de certains styles. Je crois que ce sont des problèmes que je ne pose jamais, ce genre de problème. Mais je peux peut-être donner quelques indications sur les rapports. Par exemple, il y a une répartition du message musical au niveau du son, que le son doit être épais, doit être un accord, doit être une répétition d'accords, doit être une formule orchestrale particulière. Et cette répartition, qui est très typique chez Beethoven, dans le temps et dans la répartition, disons, de l'information musicale, et c'est une chose qui m'est très importante pour moi. C'est-à-dire que je cherche beaucoup à ménager des entrées, des sorties, des répétitions. Ça fait partie, disons, de la forme de mon discours musical.
Des problèmes aussi de différence d'intensité.
De différence d'intensité, de crescendo. Vous voyez, tout ce qui fait partie du matériel immédiatement communicable de Beethoven. Ça m'a toujours surpris, ça m'a toujours énormément influencé.
Sur un autre plan, est-ce qu'il n'y a pas un caractère très typique de la musique beethovenienne qui vous a frappé et qui
trouve son développement dans votre œuvre propre, je veux dire, c'est la promotion du timbre dans la création beethovenienne comme un élément absolument primordial, beaucoup plus que chez ses devanciers.
Oui, alors c'est là où on peut dire que la musique électroacoustique a mis en vedette cet intérêt du timbre, cet intérêt un peu scientifique du timbre, et qui a été repris par Berlioz en particulier. Je crois qu'entre Berlioz et Beethoven, il y a eu toute une affinité, toute une correspondance. Et Berlioz aussi est un compositeur qui a été qui m'a été très utile.
C'est très, très amusant que vous fassiez ce rapprochement. Berlioz, bien sûr, aimait énormément Beethoven, mais c'est qu'il y a effectivement entre Beethoven, Berlioz et votre propre recherche peut-être quelque chose de commun.
Oui, enfin, il faudrait peut-être citer des œuvres à ce moment-là. Je crois que, par exemple, dans le premier cataclysme de l'Apocalypse, il y a toute une séquence qui est moitié Beethoven, moitié Berlioz.
Il y a une chose qui me frappe, une sorte de similitude qu'il me semble pouvoir noter entre l'œuvre de Beethoven et la vôtre, et qui est finalement assez rare dans l'histoire de la musique, il me semble, c'est la présence d'un, ce que j'appellerais un double pôle, une sorte de pôle lyrique, de pôle très individuel, d'une recherche qui va en profondeur et dans la profondeur la plus singulière de l'être, et puis un autre pôle, celui de l'expression épique, si je peux dire, qui essaye de parler un langage qui englobe, qui embrasse la totalité de l'humanité. Et il me semble que chez Beethoven, il y a ce pôle lyrique de l'exploration solitaire et singulière, très notamment occupé par les sonates pour piano seul, par exemple. Et puis, naturellement, il y a le pôle épique des grandes symphonies de Fidelio, de la messe en ré. Et il me semble que chez vous, Pierre-Henri, on sent également cette double préoccupation, ce double pôle, car vous êtes à la fois l'homme qui avait créé le voyage et l'homme qui avait créé l'Apocalypse, dont nous venons d'entendre un passage, et la messe pour le temps présent.
Oui, je suis, disons, très flatté que vous me disiez tout ça, mais je le sens beaucoup comme ça. Enfin, je sais que dans mon travail, et même dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être, dans tous ces moments de recherche, il y a cette espèce d'opposition des deux pôles, une musique très, des fois très décorative, très séduisante, avec une recherche d'instrumentation, de timbre, et une musique suffisamment intérieure et suffisamment organiquement personnelle.
Est-ce que vous pensez que c'est le même public qui peut aller à certains de vos concerts et ensuite à d'autres concerts entendre des symphonies ou d'autres œuvres de Beethoven ?
Oui, je crois que surtout chez les jeunes maintenant, il y a une nouvelle attirance pour cette musique, pour cette musique classique. Et je pense que peut-être ils font des rapprochements avec certaines de mes œuvres. En tout cas, je dois dire que ce qui me préoccupe beaucoup, et je le retrouve chez Beethoven, c'est un souci d'économie dans le discours, et en même temps d'une force importante, d'une dynamique. Donc ce que j'aime chez Beethoven, c'est le mélange de l'économie et la force, et peut-être que ce public doit avoir le même intérêt vis-à-vis de moi quand il vient à mes concerts.
Thank you. C'était Pierre-Henri lui-même qui nous avait suggéré ce passage final de ses variations pour une porte et un soupir comme étant assez directement influencé par la thématique beethovenienne.
Et maintenant, de Pierre-Henri à Maurice Béjart, la transition se fait d'elle-même. Les deux hommes, en effet, ont bien souvent travaillé ensemble pour notre bonheur à tous. Et je voudrais simplement dire que ce que Maurice Béjart a répondu à Brigitte quand elle a été interviewée et que vous allez entendre est également, sans que Béjart le sache, une réponse aux remarques de Boulez sur la notion d'historicité. Car une fois qu'on a voulu faire la différence entre le passé et l'actualité, en déclarant qu'on n'admettait plus rien d'une culture, il reste que si les chefs-d'œuvre de cette culture continuent à nous bouleverser, l'émotion qu'ils nous inspirent reste, elle, actuelle, et que si les chefs-d'œuvre de la culture du passé inspirent d'autres œuvres sur des plans différents, ces autres œuvres, elles, sont également actuelles, et qu'il n'est pas si difficile de se débarrasser d'une certaine continuité entre l'émotion créatrice d'hier et l'émotion créatrice d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, voici donc les réponses de Maurice Béjart aux questions que lui posait Brigitte.
Maurice Béjart, vous allez présenter un spectacle Bach, et il y a peu de temps, un certain temps cependant déjà, vous aviez présenté une chorégraphie faite à partir d'une œuvre de Beethoven. J'aurais voulu savoir quelle avait été l'idée première au départ de cette chorégraphie. Est-ce que c'était le texte de l'Ode à la joie de la 9e symphonie qui vous avait inspiré, ou est-ce que c'était purement la musique, ou les deux ensemble?
Ce qui m'intéressait, il y avait vraiment plusieurs choses qui sont réunies au fond. Oui, ce qui m'intéressait d'abord, c'était le dépassement. De même que Beethoven avait dépassé la symphonie, avait fait une œuvre que certains qualifient d'hybride, mais qui était autre chose qu'une symphonie de concert traditionnelle, je ne voulais surtout pas faire un ballet. Je voulais prolonger une certaine vision d'un univers. Et il est évident que le texte de Schiller était très important pour moi, parce que l'idée d'un ballet qui réunirait les hommes, qui réunirait les différentes races humaines, était une chose qui me préoccupait depuis très longtemps. Mais comment faire ce ballet? Je crois que le langage chorégraphique est un langage assez abstrait et assez universel. Et si l'on veut faire un ballet sur le racisme, il n'est pas question de le situer dans tel ou tel pays, et je crois qu'il n'est même pas question de faire une critique raciste. Il est question de montrer au contraire une espèce d'unité, de totalité et d'univers où, de même que les hommes de races différentes se mélangent, de même la parole, la musique et la danse se réunissent et le spectacle devient une chose qui est universelle et unique, parce qu'on peut le voir de côtés différents. On peut dire que dans ma chorégraphie, il y a des formes de danse classique très traditionnelles, avec des formes complètement modernes et complètement nouvelles, que j'ai fait des emprunts nombreux au folklore, que j'ai même utilisé certains mouvements de danse africaine. Mais je crois que tout ça fait une unité, parce que ce que Beethoven a voulu, c'est unir les êtres, même qu'il a uni des formes qui, à l'origine, étaient opposées.
Oui. En somme, la grande idée de la communion universelle, à laquelle Beethoven tenait du reste tellement, qui vous a séduit.
Oui, absolument. D'ailleurs, vous savez que, je ne vais pas vous l'apprendre à vous, qu'il y a certaines partitions en allemande ou en Allemagne où on parle de la 9e symphonie et où le dernier mouvement est écrit « Mit Chor und Tanz ». Et que l'idée originale de Beethoven était de faire danser le dernier mouvement. Il n'a évidemment pas pensé aux trois autres, mais il voulait que le dernier, ça c'est cette espèce de kermesse qui dépasse le bon goût ou le mauvais goût, et qui dépasse une certaine idée de l'œuvre d'art établie, et qui devienne une espèce d'hymne des corps aussi bien que des voix.
Est-ce que vous avez eu des problèmes par rapport à la musique de Beethoven?
Non, pas du tout, pas des problèmes. C'est-à-dire que j'ai eu des difficultés parce qu'il s'agissait d'analyser une œuvre gigantesque, une œuvre Mais je dirais pas une œuvre compliquée parce qu'elle est tellement claire. Alors, les problèmes étaient peut-être des problèmes de conception et comment pénétrer dans un univers qui est d'une telle richesse. Mais au contraire, il y a une telle clarté d'écriture, il y a une telle simplicité derrière cette complexité que je crois qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu finalement de problème. Non, il y a eu des difficultés, mais pas des problèmes.
En quoi est-ce que vous pensez que la musique de Beethoven pouvait se prêter à ce genre d'expression?
Mais je ne sais pas, c'est une gageure, puisque lorsqu'on s'empare de l'univers de quelqu'un qui n'a pas prévu votre intrusion, il y a à la fois acte d'amour et viol, puisque cette symphonie, moi je l'ai vraiment passionnément aimée pendant tout le temps de la réalisation, et je l'aime toujours, vous voyez pas, je parle au passé pour ça, mais je l'ai étudiée note par note, mouvement par mouvement, j'ai essayé d'analyser d'une certaine façon la composition de l'œuvre. Et puis en même temps, il fallait y mettre ce que je pensais que j'y voyais. Mais à ce moment-là, lorsque vous écoutez une musique, chaque personne voit des structures différentes et analyse différemment la phrase existante.
Vous disiez tout à l'heure, pour vous, au fond, Beethoven est sorti plus grand de cette expérience.
Mais je ne sais pas, ce n'est peut-être pas à moi de le dire. Enfin, de toute façon...
Non, simplement, oui. Pour vous, de votre point de vue, oui. C'était une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'en cours de route et en cours de travail, ce qui, après tout, pourrait se concevoir, Beethoven disparaissait au profit de la création que vous étiez en train de faire, de rêver? Est-ce que même dans votre esprit, au fond, dans votre esprit ou même dans votre conception, Beethoven pouvait disparaître un peu? Ou est-ce qu'au contraire, Beethoven était... dans un sens constamment présent?
Ah oui, il est constamment présent. Et ce qui est très curieux avec le ballet, je crois que lorsqu'on fait un ballet sur une partition existante et qui n'est pas destinée à être dansée, c'est vraiment de l'analyse musicale. Parce qu'il y a d'abord un travail intellectuel qui est très, très, très dur et très, très poussé, très aigu. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, on découvre l'œuvre. Et plus on avance, plus on la découvre. Et c'est là que les œuvres riches résistent le plus longtemps. Enfin, j'ai l'impression que chaque fois que je reprends la neuvième, la chaque fois que je la retravaille, de la découvrir à nouveau, à chaque audition, c'est la première audition, et chaque fois, j'ai l'impression que je n'ai pas encore compris et que j'ai encore mille choses à apprendre et à chercher et à trouver. Donc, je crois que le propre des œuvres riches, c'est que plus on y pénètre, plus il reste à pénétrer.
Oui, vous parliez aussi tout à l'heure de viol. Est-ce que vous avez considéré au départ que cela pouvait être un viol, ou est-ce que cette démarche de mettre une chorégraphie moderne sur une partition ancienne vous a toujours paru normale?
Le viol, c'est peut-être un mot que les gens m'ont dit. Moi, je ne le sens pas parce que lorsque j'agis vis-à-vis d'une partition, comme que ce soit Beethoven, Bach ou Stravinsky, il s'agit d'abord d'aimer une œuvre, et à ce moment-là, on n'a pas conscience d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit. Il est évident qu'il y a des œuvres dont on se sert, et il y a des œuvres qu'on épouse. Lorsque je fais la neuvième, lorsque je fais les cantates de Bach, lorsque je fais le Sacre du Printemps, j'ai l'impression d'épouser un univers musical existant, et de chaque fois une révélation de plus en plus grande. Lorsque j'ai fait la Veuve Joyeuse de Léard, j'ai l'impression au contraire de me servir d'une œuvre pour donner un univers personnel et de la détruire un petit peu, vous voyez, à mon propre bénéfice. Je crois qu'il y a deux façons d'aborder l'œuvre qui sont ces deux-là. Mais ce n'est pas le cas dans la 9e symphonie.
Est-ce que dans l'ensemble, cette chorégraphie a été bien accueillie ou considérée avec un certain scandale? Comme si on touchait à quelque chose de sacré. Parce qu'enfin, la 9e, ça n'était pas Stravinsky. Il s'attache, je crois, dans l'esprit du public, une espèce de valeur symbolique à ce texte comme tel.
Mais je veux dire que j'étais surpris parce que je m'attendais à beaucoup plus de critiques. Il y a eu beaucoup de critiques sur certaines idées, sur certains pas, certaines façons de travailler l'œuvre. Mais il n'y a pas eu finalement de grandes critiques sur le fond de la chose. En particulier, j'ai eu très peur lorsque nous l'avons fait à Berlin. Nous l'avons dansé à... au Deutschlandhalle, un immense endroit à Berlin. Je m'attendais à une réaction assez violente de certaines critiques musicales allemandes, mais contrairement, elles ont été très, très, très positives. Ils ont souligné tel passage ou tel autre, qu'ils aimaient plus ou moins. Mais dans l'ensemble, je me souviens d'un des plus grands journaux allemands qui avait titré « Peut-on danser la 9e ?» Non. « Béjart peut-il ?» Oui. Vous voyez, donc ça m'avait assez réchauffé, si je dois dire.
Question générale, un peu maintenant, comment est-il possible pour des ballets du XXe siècle d'envisager des chorégraphies sur des partitions justement anciennes ?
Là, je crois qu'il y a un problème qui, au début, a été mal posé, et surtout par moi. Au début, lorsque j'ai dit « nous serons le ballet du XXe siècle », nous avons commencé par une soirée Stravinsky, une soirée Bartok, une soirée avec Webern, Schönberg, Berg, une soirée avec de la musique électronique, et je me suis dit « ça sera un ballet qui se dédiera aux œuvres musicales du XXe siècle ». Et puis je me suis rendu compte que c'était voir le XXe siècle par un petit bout de la lorgnette, et qu'il y avait beaucoup de gens qui, sur des partitions d'Oxenakis ou de Berlioz, faisaient des ballets typiquement XIXe siècle, et qu'on pouvait faire une œuvre du XXe siècle sur une partition qui a déjà 100 ou 200 ans d'existence. Alors je crois que je suis venu après à des musiques plus anciennes parce que c'était élargir la portée du XXe siècle et ne pas le voir sous l'angle très strict des dates. Pour moi, la 9e symphonie est une œuvre vraiment actuelle, aussi bien par l'écriture que par l'idée, que par le thème, que par la pensée, que par l'émotion, alors que certains, je pourrais prendre un compositeur qui me fera une œuvre ces jours-ci et qui sera beaucoup plus ancien, enfin. Alors je crois qu'il ne faut pas se limiter à cette vue du XXe siècle qui ne serait que des décorateurs ou que des compositeurs ou que des écrivains du XXe siècle. Il faut voir, d'ailleurs, du moment que cette 9e symphonie, dans la version que nous avons présentée, touche un public si vaste, si jeune et si actuel, c'est qu'elle est probablement du XXe siècle.
La 9e symphonie pour clore la 6e séquence de Beethoven année 200, 5e et dernier cycle, aujourd'hui Brigitte et Jean Massin interrogeaient Pierre Boulez, Pierre Henry et Maurice Béjart. C'était une émission diffusée la première fois le 4 mars 1971.